Capital sur Radio Grand Ciel. Au micro, Elisabeth Couget. Bonjour à nos auditeurs de Radio Grand Ciel et bonjour à Christine Infota qui m'accompagne pour vous faire voyager aujourd'hui dans le sud de l'Europe en découvrant la capitale de la Sicile, Palermo.
Ou Palerme en français. Où, Elisabeth, tu es allée il y a 2 ou 3 ans, et moi aussi j'y suis allée, et j'adore la Sicile, et bien sûr sa capitale, où nous allons nous promener aujourd'hui avec vous.
Au large de l'extrême sud de la péninsule italienne, cette île baignée de soleil réserve des merveilles aux visiteurs. Les volcans en activité illuminent le ciel nocturne. On y trouve de pittoresques villages de pêcheurs méditerranéens, de temples antiques et de forteresses imposantes laissées par les vagues successives d'occupants divers.
Sans oublier les magnifiques plages, les marchés colorés, les musées qui regorgent d'antiquités inestimables.
Et n'oublions pas les fêtes joyeuses qui ponctuent l'année et qui sont autant d'événements mémorables pour les étrangers qui découvrent la Sicile, et même pour les Siciliens eux-mêmes. Alors on peut dire que peu de régions méditerranéennes peuvent se vanter d'avoir des paysages aussi étonnants et avoir une histoire aussi mouvementée que la Sicile.
Il y a des différences notables dans les différentes parties de l'île selon les passages des envahisseurs au cours des siècles.
Ainsi, la culture grecque marque la partie orientale de l'île, tandis que l'influence des Phéniciennes et celle des Arabes est très présente dans la partie occidentale de la Sicile, plus connue dans l'Antiquité sous le nom de Trinacria, qui était donc l'ancien symbole de la Sicile. En fait, l'île a une forme triangulaire, d'où ce surnom. Et des trois mers qui baignent ses côtés aussi donnent une explication. Trinacria, d'ailleurs, veut dire la terre aux trois pointes.
Pour y aller, il vaut mieux choisir les mois les moins fréquentés, éviter peut-être juin, juillet et août. Mais en réalité, quelle que soit l'époque où vous visiterez l'île, vous trouverez toujours de quoi faire votre bonheur.
Entre la gastronomie, le vin, la côte merveilleuse et les trésors artistiques, les parcs naturels de l'Etna, des activités sportives, les stations thermales, etc.
Et toute cette richesse dont regorge l'île laisse présager une capitale passionnante, remplie d'endroits exceptionnels à visiter.
Alors Palerme est réputée pour son étonnante synthèse des architectures arabes, normandes et de style baroque.
Et aussi, malheureusement, pour sa circulation chaotique, indescriptible, mais donc il vaut mieux la visiter à pied ou en utilisant les transports publics.
Alors commençons d'abord avec un tout petit peu d'histoire. Alors tu sais, Christine, que l'histoire est mon dada.
Mais oui, bien sûr, je confirme. Donc, raconte-nous des aperçus de l'histoire de la Sicile, qui d'ailleurs remonte à très très longtemps, plus de 2000 ans je crois.
Alors, au fil des siècles, l'île est passée successivement sous domination phénicienne, grecque, romaine, byzantine, arabe, normande et espagnole, avant une période médiévale qui n'a pas beaucoup changé les empreintes laissées jusqu'à l'an 1000 sur ces terres par les migrations successives des diverses civilisations.
Et chaque civilisation, chaque culture, en laissant son empreinte, a forgé certains aspects de la société sicilienne moderne.
Alors effectivement, ce riche héritage se manifeste par un curieux mariage de dignité, de réserve et d'hospitalité exubérante,
oui,
qui caractérise les gens. L'empreinte que ces populations ont laissée derrière eux se retrouve par exemple dans les environs de Palerme, qui ont subi l'influence punique, puis l'islamique, et la partie orientale était jadis le centre de la Grande Grèce. Imaginons voilà, à quel point la Grande Grèce était immense. Et aujourd'hui, même la langue parlée reflète toutes ces différences.
Qui quand même, avec le temps, se sont sérieusement atténuées. Et puis, des différences socio-économiques qui sont vraiment réelles dans les différentes parties de la Sicile et même à Palerme.
Mais la longue et tortueuse histoire de l'île ne permet pas à elle seule de comprendre ses habitants et leur mode de vie. Le climat et la topographie de la Sicile ont eux aussi joué un rôle. Alors ici, la température atteint 30 degrés et la dépasse plus de la moitié de l'année.
Et dans l'autre moitié, des pluies torrentielles et ravageuses arrivent. Le climat sicilien est donc extrême, voire cruel par moments.
Ce climat a façonné les extraordinaires paysages de l'île, comme l'a si justement écrit Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui était donc l'auteur du Guépard. En Sicile, voilà ce qu'il disait. En Sicile, l'enfer de Randazzo côtoie le paradis de Taormina.
Mais je ne connais que Taormina, je connais
pas l'enfer. Oui, qui est en hauteur, donc c'est beaucoup, beaucoup plus aéré, effectivement.
Et puis, sans oublier les tremblements de terre.
Et des éruptions de l'Etna, le plus grand volcan actif de l'Europe. Vu du ciel, la Sicile offre un spectacle somptueux qui inspire crainte et respect.
Et c'est en méditant ces paroles que nous nous octroyons une première pause musicale.
Sicilienne, bien entendu,
bien sûr.
Avant de nous retrouver pour commencer notre promenade palermitaine.
Io ballate, io ballate, femmini schiette e maritati, e sono a ballate, poi io non vi canto e non vi suono. Io ballate, femmini schiette e maritati, e sono a ballate, poi io non vi canto e non vi suono. Su, 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 quando femmini cacci su, cinne quattro scavanzati, ni facemo che patati, cinne quattro maccatelli, ni facemo che bisetti. Uomini schietti e maritati, essermi abballati, buoni non vi cante e non vi son. Abballati, abballati, uomini schietti e maritati, essermi abballati, buoni non vi cante e non vi sono. Su, 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 quando uomini cacci su, cinque e quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque e quattro ammaccatelli, ni facemo che bisetti.
Voici après ces quelques notes de musique avec Christine pour vous amener à Palermo dans notre émission Capitale sur les ondes de Radio Grand Ciel.
L'origine du nom de la ville de Palerme vient de la mer. Ce sont les Phéniciens qui la baptisèrent d'abord Panormos, c'est-à-dire port.
Car elle est nichée au creux d'une baie au pied du Monte Pellegrino. À l'époque romaine, Palerme est déjà prospère. Mais c'est finalement sous la domination arabe qu'elle connaîtra son véritable âge d'or. Lorsqu'elle rivaliserait de beauté avec Cordoue et Le Caire, plus tard, elle deviendra la capitale du royaume normand.
De nos jours, il reste très peu de vestiges des temps anciens de la cité fascinante qu'était Palerme.
Par contre, l'influence du Moyen-Orient reste visible dans l'architecture des églises, le réseau de ruelles de la vieille ville et les marchés. Le XVIIe et XVIIIe siècle, l'époque baroque, a également laissé son empreinte sur les édifices civils et religieux.
Et puis longtemps après, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale et ses dégâts.
Et oui, Palerme a beaucoup souffert. Des bombardements en 1943 et après la guerre, la reconstruction a été passablement anarchique et très difficile, beaucoup à cause de la corruption et de la mafia et le manque d'argent.
Mais c'est une très belle ville, pourtant, riche et passionnante. Et malgré les restaurations inégales, Palerme reste une destination phare.
Ce qui n'est pas étonnant, étant donné son passé si riche. Alors rappelons-nous donc le passage ici des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Byzantins, des Arabes, qui seront chassés chacun leur tour par les Normands, eux-mêmes remplacés par l'empereur Frédéric II de Prusse, suivis par les Angevins, les Aragonais et enfin les Bourbons. Et ensuite, au XIXe siècle, Giuseppe Garibaldi, qui ouvrira la voie à l'unification de l'Italie, donc vers l'ère moderne.
Que nous connaissons. Elisabeth, quels sont les édifices que tu préfères à Palerme? Peut-être ceux de la période des Normands?
Ah oui, tout à fait. Et je commencerai par le Palazzo dei Normanni.
Donc le palais des Normands, qui en réalité fut bâti au XIe siècle par les Arabes sur les ruines d'une forteresse romaine.
Qui ensuite deviendra la résidence des Normands, celle de Roger II. Il reste hélas peu de choses de cette époque, notamment parce que le palais fut abandonné après le départ de Frédéric II et ni les Angevins ni les Aragonais ne s'y installèrent. Il faudra donc attendre le XVIIe siècle pour que le palais subisse des réparations et quelques transformations. Aujourd'hui, à l'étage qui est entouré d'arcades sur trois niveaux, siège le Parlement sicilien.
Les appartements royaux sont somptueux, tapissés de mosaïques, d'influences perses du XIIe siècle. Et ils se visitent, bien entendu, ainsi que l'extraordinaire chapelle palatine, l'un des rares vestiges de la période normande sicilienne.
Alors, fondée par Roger II, en 1132, la Cappella Palatina, comme le disent en Sicile, avec ses splendides mosaïques, est un joyau de l'art arabo-normand. Des scènes bibliques se déploient sur les murs. Sur la coupole, le Christ Pantocrator est entouré d'anges et des quatre évangélistes. Dans les arcades, ce sont les prophètes et les rois de l'Ancien Testament qui sont représentés. Et le tout est une merveille d'éblouissement.
La cathédrale, que nous avons pu admirer d'ailleurs dans le magnifique film Le Guépard, dont on a parlé tout à l'heure.
On le voyait sortir, voilà. Claudia Cardinale.
Claudia Cardinale sortant de la cathédrale de Palerme. La cathédrale, donc, est de la même période que cette chapelle palatine. Donc,
et oui, plus ou moins, parce que, dédiée à Notre-Dame de l'Ascension, elle se dresse sur le site d'une ancienne basilique chrétienne, transformée en mosquée par les Arabes, et ensuite élevée entre 1179 et 1185, souvent restaurée et modifiée du monument d'origine, ne reste que peu de traces, hélas. Sinon, le chevet, qui a gardé son aspect ancien avec ses arcs entrecroisés, et le porche gothique, dit le porche catalan, qui est orné de scènes bibliques. La cathédrale a conservé plusieurs éléments de l'ancienne mosquée. Il y a à signaler encore la chapelle Santa Rosalia, qui est dédiée à la sainte patronne de la Palerme et qui abrite la dépouille de la sainte. Et à Christine aussi, peut-être.
Sainte Christine est patronne de Palerme,
avec Rosalia, deux femmes merveilleuses qui protègent cette belle ville, n'est-ce pas?
Voilà. Donc finalement, on peut dire que l'intérieur de la cathédrale a été sérieusement modifié au XVIIIe siècle, ce qui donne à la cathédrale une allure néoclassique avec tout de même de nombreux détails gothiques qui furent, eux, rajoutés au cours du XVe siècle.
Comme d'ailleurs le portail et les tours géminées. En outre, on y trouve des parties baroques dans la cathédrale et à voir aussi la coupole centrale qui n'était ajoutée que vers la fin du XVIIIe siècle.
À l'extérieur de la cathédrale, les motifs crénelés courent le long du bâtiment et sont typiques de l'architecture normande.
Alors, quant au chevet et les absides, ils sont de la mieux conservée de cet édifice, dont les différents styles architecturaux reflètent parfaitement l'histoire tortueuse de la ville. La cathédrale et le palais normand sont vraiment les deux plus beaux monuments de Palerme. Et si après tout ça, vous alliez vous rafraîchir à la fontaine Pretoria, vous auriez déjà vu une grande partie de ce qu'il ne faut pas rater dans la capitale de la Sicile.
Bon, il en reste encore. Mais avant de les découvrir, parlons donc un peu de cette fameuse fontaine Pretoria, appelée aussi la fontaine de la honte, en raison de ses statues de nus.
Alors pour y arriver, on passe par la place des quattro canti, donc les quatre coins, cette place ronde qui est délimitée par les façades concaves de quatre bâtiments.
Et voilà la raison du nom de cette place.
Alors, ces quatre bâtiments sont identiques, où les styles dorique, ionique et corinthien se succèdent sur trois niveaux. Et quelques rues plus loin, nous atteignons la fontaine de la Honte, située sur la place la plus fascinante de Palerme.
J'aimerais bien savoir à quelle époque on l'a appelée comme ça, fontaine de la Honte.
Ouais, en fait, une époque donc, il ne fallait pas se promener nu.
Sans doute. Et cette fontaine fut réalisée par le grand sculpteur toscan Francesco Camilani entre 1552 et 1555.
Alors, elle était destinée à l'origine au jardin d'une villa florentine. La fontaine est ornée de statues nues, de créatures mythologiques, de monstres, de tritons, de sirènes et d'allégories des quatre fleuves arrosant Palerme, qui sont donc Oreto, Papireto, Gabriele et Mare Dolce. Donc, la mer douce.
On rêverait déjà rien qu'à leur nom.
C'est le seul qu'on comprend.
Voilà. Et après s'être rafraîchi sur cette place au milieu de ces statues, je vous donne rendez-vous dans quelques petites minutes, juste après une nouvelle pause musicale.
Et nous continuerons à visiter Palerme, qui est vraiment une ville magique. Nous voici de retour à Palerme, après cette très courte page musicale, pour nous retrouver sur la Piazza Marina, la place principale du vieux Palerme, qui à partir du Moyen-Âge a accueilli tournois, représentations théâtrales, marchés et même des exécutions publiques ou des festivités impressionnantes qui accompagnaient les grands mariages royaux. Les quatre côtés irréguliers de la place sont bordés de très très beaux monuments.
Qui sont des palazzo, ou palazzi plutôt, ou en français des palais, construits dans leur ensemble au XIVe siècle.
Cette place est l'une des plus grandes de Palerme, avec au centre le jardin Garibaldi, planté d'immenses ficus, de magnolias, ombrageant aux étonnantes racines aériennes une fontaine et des bus des célébrités, et en particulier celle de Garibaldi, le héros national.
De tous les palais qui entourent la place, le palais Ababelli est peut-être le plus intéressant. Et sa construction débuta en 1490. Il abrite aujourd'hui la galerie régionale de Sicile, où sont exposées des œuvres majeures.
Bien sûr, il y a des églises aussi, comme la Santa Maria della Catena du XVIe siècle, qui doit son nom
à la chaîne, voilà, Catena, chaîne.
Voilà, qui l'isole de son environnement. Un large escalier mène au magnifique porche à trois arcades, au style gothique catalan. Et puis, il y a aussi l'église La Gancia, édifiée par les Catalans en 1485, avec son monastère franciscain.
Palerme, c'est une ville remplie d'églises, dont un grand nombre datent de la Renaissance, comme l'église de la Santa Caterina, de la Piazza Bellini.
Ce qui est un splendide témoignage du baroque sicilien. Sur cette même Piazza Bellini, il y a un monastère bénédictin construit en 1143, à l'époque du roi Roger, avec sa belle façade baroque du XVIe siècle, attire l'œil. Cette église exceptionnelle allie le style normand à des traits plus tardifs.
Bien sûr, nous ne pouvons pas vous parler de toutes les églises de Palerme, mais la Santa Catalina, toujours sur la Piazza Bellini, mérite peut-être, Elisabeth, que tu nous en parles un peu.
Oui, après la Santa Catalina, on verra San Cataldo, c'est un homme cette fois-ci.
Ah oui,
que d'accord. Nous allons voir sur la même place, bien sûr.
Oui, pardon.
C'est une ancienne chapelle construite au XIIe siècle et la propriété de l'ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre qui a conservé son style arabo-normand avec ses trois coupoles rouges surélevées et ses baies entourées d'arcades. On y voit toujours des inscriptions extraites du Coran.
La prochaine souvenir, fois, j'irai souvenir le voir. Arabe.
Oui, je ne le savais pas quand j'y étais.
Oui. Hein. Le musée archéologique régional est à voir aussi. Il est installé dans un ancien monastère du XVIIe siècle et il abrite les nombreux trésors trouvés sur l'île, ce qui en fait un musée d'une richesse inouïe.
Alors, depuis un moment, nous admirons une ville exceptionnelle, mais pour vraiment la découvrir et la comprendre, il faut aussi aller au marché. Alors, allez faire un tour à la Piazza Caracciolo et rentrez dans le plus célèbre marché de Palerme qui s'appelle le Mercato della Vucciria, immortalisé par le peintre Renato Guttuso. On y vend de tout, de la viande, des légumes, des fruits secs, des épices, des fromages, du poisson et tout ça dans un tourbillon de couleurs, de bruit et d'odeurs qui rappelle vraiment les souks d'Afrique du Nord. Le marché, donc, c'est tout ça, c'est très vivant.
Oui.
Le marché est particulièrement impressionnant de beauté au coucher de soleil, lorsqu'il brille de mille feux, tandis qu'on y prépare des poulpes. Où l'on cuisine des brochettes parfumées.
C'est dommage qu'on n'ait pas les photos.
Oui, c'est ça, non, mais on est à la radio.
La ville de Palerme est très intéressante, mais aussi en dehors du centre, au-delà des anciens remparts qui furent démolis à la fin du XVIIIe siècle.
Et oui, hélas, cette démolition a entraîné la construction, c'est vrai, de nombreux nouveaux quartiers, mais cette disparition a provoqué la destruction du vieux Palerme. Ainsi, le centre de la ville s'est un peu déplacé vers l'extérieur, où ensuite on a bâti des théâtres et autres lieux d'amusement. Tout ça, c'est très bien. Mais hélas, cette extension de la ville a signé la disparition de la plupart des magnifiques jardins arabo-normands.
Alors, ça, quand on en connaît,
on, on, on sait à quel point c'est regrettable.
Voilà, les jardins arabo-normands sont tellement beaux que c'est vraiment dommage. Heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui ont survécu, dont le Castello della Zizza, qui aujourd'hui fait partie du Grand Palerme, tout comme d'ailleurs le très recherché Mondello, le quartier Mondello, et la cathédrale Monreale.
Alors, Mondello est la plage préférée des palermitains. C'est un ancien village de pêcheurs de thon, gardé par une tour carrée du XVe siècle, et elle est devenue, en 70 ans, une ville résidentielle où les habitants de la capitale sicilienne ont fait construire de très belles et riches villas de style Art Nouveau et ils ont installé des beaux restaurants pour accueillir les touristes.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Elisabeth, mais nous ne pouvons pas quitter Palerme sans parler de la cathédrale Monreale, qui marque l'apogée de l'art arabo-normand de la capitale de la Sicile.
Alors, Monreale a été fondée en 1172 et un monastère bénédictin y était adjoint. La cathédrale est célèbre pour ses magnifiques mosaïques à fond d'or, illustrant les épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les arcades du cloître d'inspiration musulmane portent encore des motifs géométriques.
Et les portes en bronze du portail principal sont impressionnantes. Réalisées en 1195, elles sont ornées de 42 scènes bibliques d'une finesse incroyable.
Et voilà, je crois que nous vous quitterons après cette visite à Monreale qui clôt notre découverte de Palerme et nous espérons avoir réussi à vous donner envie de la découvrir à votre tour, si ce n'est pas encore le cas.
J'espère. Donc, à bientôt, alors, pour une prochaine émission Capitale.
Sur Radio Grand Ciel, bien sûr.
Chiacchianaro senza scala, dirò, dirò, la la. All'occhianari appino la fortuna, dirò, 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 la la. Allo scinnire si stucca una rama, dirò, dirò, la la, e non mi marito no, e non mi marito no, e non mi marito no. Schietto mi stai e dirò, la la. Pigira presso a ti avessi lo scecco, dirò, 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 la la. Ora mi sento la testa ringia un sacco, dirò, dirò, la la. Angioli pomidelli girasi, dirò, 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 la la. Piangio la confidenza che diresi, dirò, dirò, la la.